Bon, alors, ceci est notre dernière soirée de cette année de séminaire. Donc, je remercie nos deux intervenantes qui ont certains fait quand même beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici en raison des grèves. Et puis, donc, sur ce thème, historiser, raconter, écrire. Alors, je ne vous fais pas très longue pour mon introduction. Je voulais simplement dire que tout au long de cette année, la différence entre l'histoire, la grande histoire des historiens et l'histoire selon Lacan en ce qui concerne la psychanalyse n'ont pratiquement rien à voir. Je crois que nos deux intervenants vont d'ailleurs renchérir là-dessus d'une certaine façon. Voilà. Alors je passe la parole d'abord à Bernard Teboul, que vous connaissez tous, qui est psychanalyste à Paris, membre de l'école des forums du champ lacanien, et qui va donc nous parler de privilégier l'avenir individuel plutôt que la grande histoire. Est-ce le dernier mot de la psychanalyse? C'est plutôt son point de départ, mais où cela mène-t-il?
Merci François et merci pour l'invitation à parler ce soir. Mon premier point sera sur le mot d'historien. Avec une... Vous préférez le micro? Non? Oui? Oui? C'est mieux. Avec une épigraphe de Lacan, l'histoire est historiolée de mythes. Séminaire 4, page 400. Mon point de départ est donc clinique. C'est ce que Lacan, dans le fil de cette épigraphe, appelait la fomentation mythique de Hans. Cette fomentation que Hans produit pour répondre à la carence du père réel. Je pense qu'il y a eu assez de travaux sur la phobie cette année ici pour que tout ça soit très frais dans les esprits. L'histoire est historiolée, c'est-à-dire que l'historiol est une construction pour répondre et suppléer à P0. Alors, il y a un mathème que c'est le seul que je vais écrire ce soir. Je vais l'écrire au tableau, mais vous l'avez en tête. Le mathème, donc, de entre parenthèses, sigma P0. Où le sigma est quelque chose qui est symbolisé. Et P0, l'absence de père. Il y a production d'un signifiant qui est ici mathématisé par I. Production d'un signifiant dont Lacan dit qu'il est le signifiant autour duquel la phobie ordonne sa fonction. Il précise que cette fonction est d'intégrer par l'imaginaire un élément intolérable du réel. Il me semble qu'il en est du mythe freudien, du mythe de l'Oedipe freudien, comme de la fomentation mythique de Lacan, de Hans. C'est ce qui se dira, au fond, en 75, comme quatrième consistance du nœud à quatre. Le problème de la névrose, donc le problème de l'Oedipe, c'est que l'impasse du début se retrouve à la fin. Et ce, dans l'élaboration que fait un névrosé, comme dans la grande histoire. Il y a dans la grande histoire, comme on dit, entre guillemets, des moments qui font effet de vérité. Freud, méditant l'atrocité et l'absurdité de la guerre de 14, dès 1915, décèle que l'histoire est pour l'essentiel une longue suite de génocides. Il l'écrit dans ses considérations actuelles sur la guerre et la mort, donc de 1915. Voilà en quoi ce qui faisait problème se retrouve, y compris dans les phénomènes de la grande histoire. Alors, deuxième point, fin de l'histoire. C'est le problème de la fin qui a fait naître la philosophie de l'histoire. La téléologie historique, de la matière inerte jusqu'à l'état moderne, qu'on peut lire sous la plume de Hegel, tout particulièrement, bien entendu. C'est ce qu'on appelle la dialectique, et son ressort profond est l'Aufhebung. Le dépassement de chaque moment d'histoire qui conserve ce qui est dépassé. La discussion philosophique des années 1930-1960 porte précisément et spécialement sur la critique de Hegel, auquel on oppose classiquement, et à l'époque en particulier, Kierkegaard et la philosophie de l'existence. Philosophie de l'existence dont Lacan précise dans RSI, elle n'a pas sans doute le même accent que celui que j'y mets de la fragmentée d'un tiré existence. J'ai retrouvé chez Sartre, dans la critique de la raison dialectique, dans une petite note de la page 18, une formule extrêmement claire, je trouve, et qui nous parle de ce qui oppose Kierkegaard à Hegel. Sartre dit, c'est que pour Hegel, le tragique d'une vie, soulignée, est toujours dépassé. Dépassé, c'est le mot à faire. Le vécu s'évanouit dans le savoir, dit Sartre. Et c'est un savoir qui s'accroît et qui culmine glorieusement jusqu'au savoir absolu. Et Sartre continue en disant que ce que Kierkegaard reproche à Hegel, je cite Sartre, c'est de négliger l'indépassable opacité de l'expérience vécue. À l'époque, celui qui essaye de faire une synthèse de l'hégélianisme et de l'existentialisme, c'est Jean Hippolyte. Et c'est la raison de sa présence au séminaire de Lacan en 1953. Or, ce qui est supposé dans la discussion entre l'existentialisme et l'historicisme de Hegel, c'est la pensée de Heidegger, et tout particulièrement sa pensée sur l'histoire. Alors, je vais me livrer de façon comme ça, à un petit jeu d'étymologie. L'étymologie est une science amusante et peu sérieuse, mais qui a cette particularité d'être très suggestive pour les théoriciens et tout particulièrement pour les philosophes et tout particulièrement pour Heidegger. Alors, je vais parler en une seconde de l'étymologie du mot histoire en allemand. Voilà comment ça s'est vu à Histoire en allemand, c'est Geschichte. Et Heidegger considère que ça vient du mot Geschichte. En français, ce qui est de l'ordre de la Geschichte, de la grande histoire, si vous voulez, les traducteurs de Heidegger ont traduit par historique. Mais ce qui est de l'ordre de Geschehen, c'est-à-dire de ce qui advient, de ce qui arrive à quelqu'un, ou à quelqu'un, le traducteur français de Heidegger, premier, il y a très longtemps le seul,
1937, Henri Corbin a traduit ça par historial. Le terme. Mais il me semble peut-être que l'historiol de Lacan est un jeu plaisant sur cette historiale, traduction française, de ce qui advient à quelqu'un chez Heidegger. Il y a une autre peut-être source de l'historiol chez Lacan, il ne cite qu'une fois dans son texte de la conférence de novembre 67, le petit discours psychiatre, il dit c'est les historiolae en latin de Spinoza, les petites histoires que chacun se raconte. Alors qu'est-ce que fait Lacan tout ça en 53-58? Lacan a lu Hegel, et tout particulièrement il l'a lu avec l'aide de Kojève. Suivi les cours pendant les années 30. Et il est très sérieusement informé de la discussion philosophique Kierkegaard-Hegel, voire même engagé dans cette discussion avec lui. Ne rechignez pas de commencer des conférences devant des assemblées de philosophes, le mythe individuel de Névosé, par exemple, ou subversion du sujet des désir à Royaumont, un colloque de philosophe invité par Jean Val. Alors, comme freudien, Lacan est certes du côté du déchirer, de ce qui advient à un sujet. Mais il réintègre là où c'est beau, le dépassement là, dans la théorie. Et ce, en deux occurrences majeures, sa théorie du signifiant métaphore, et sa première conception de la castration. Je cite le séminaire 4 à la page 407 sur la castration. La formule normale de la castration comporte que le garçon, pour ne parler que de lui, ne possède son pénis qu'à la condition de le retrouver, qu'en tant qu'il lui est rendu, après qu'il l'a perdu. Fin de citation. Ça, c'est le schéma typique de Lao Fébon. Mais cette récupération, cet opérateur logique, se différencie de tout évolutionnisme ou de toute philosophie du progrès. Il y a en quelque sorte, dans l'approche que Lacan propose, une cohérence structurale de chaque moment, une sorte de nécessité interne, mais pas de développement progressif. Lacan se range du côté de ceux, à cette époque-là, qui, dans les années 60, s'appliquaient à repenser l'histoire en termes de structure. Solution au débat précédent. On a voulu faire de la structure histoire. C'est ainsi, par exemple, qu'Althusser a dit Marx. Quatrième point, quel était le point de vue freudien? Et c'est là que nous allons faire de l'étymologie de fantaisie en cherchant une autre étymologie qui pourrait être freudienne, mais ça c'est de mon invention, c'est pas Freud qui le dit, qui pourrait être freudienne du terme geschicht, du terme que je dis pas, et c'est le mot schicht. Schicht, que vous voyez dans geschicht. Schicht. Qui veut dire couche, strate, couche sédimentaire. Freud a une pensée et un vocabulaire porté quasi naturellement au terme structure. Malheureusement, les traductions françaises ne permettent pas trop de nous en apercevoir la plupart du temps. Pour Freud, il y a des fixations sédimentaires. Différentes strates d'organisation de la libido, des défenses et du narcissisme. Et Lacan donne cours à cela à sa façon, par exemple dans Position de l'inconscient, à la fin du 135 de l'écrit, il explique que le mouvement du sujet, c'est d'advenir par l'identification signifiant qui est aussi bien son aliénation, sa disparition sous, dans la chaîne signifiante, et qu'en un deuxième mouvement, du Lacan, sur ce terme, je le cite, le sujet fait retour à la sorte de fixité que Freud décerne au vœu inconscient. La position est cette fois radicalement anti-existentialiste, contre tout projet, contre toute entreprise de transcendance individuelle, par rapport à ce qui désormais va se dire en termes de l'histoire. Alors la fixité. Cette fixité que Lacan note Freud, c'est un réel de jouissance. Et c'est à cela que je confronte la question étant, peut-il y avoir des sédimentations, des fixations de jouissance? Lacan parle de veines au sens géologique du terme, mais aussi au sens de chance de cerner, de désédimenter plutôt que de déstructurer ou de déconstruire, de désédimenter ce réel. Là se situe la question de la vérité, et c'est ce qui nous sépare des historiens. Même les historiens modernes, ceux dont parle Lacan dans les théories, qui s'en remettent avec honnêteté à leur découverte. Comme nous disait notre dernière séance de ce séminaire, notre invité, pour le nom de chat, les historiens qui s'en remettent avec honnêteté à leur découverte, à leurs documents, réduisent leur prétention à la vérité, mais la maintiennent en sens cerné à un réel de l'histoire par une sorte de minimalisme de l'approche. Pensez à ce que nous disait notre invité, cette étude d'un de ses collègues, lui-même, je ne me souviens plus, centrée sur une rue d'une ville ouvrière en temps passé. À ce prix, ce type d'historien honnête et centré sur un document, dans ses livres. Alors que ce même passage de l'étude conclut de notre part à une, je cite, impossibilité de dire le vrai sur le réel. Et c'est en ce point que se pose la distinction de l'inconscient réalité et de l'inconscient réalité. Alors où cela mène-t-il? Et est-ce là que nous en sommes? Et que nous en sommes depuis le 14 décembre 1976 et le 16 novembre 1976, là je vais me contenter de citer Lacan dans le séminaire de mon début, que je cite à partir de 34, de la première édition qui a été faite sous le contrôle de Lacan, dans l'article sur le temps. Comment ? Non, ça c'est le numéro de 2013. Alors dans le numéro 13 à la fin, le 14 décembre 1976, le 5 ans, réel ou vrai, pour l'interrogation. Tout se passe à ce niveau du jadis, comme si les deux mots étaient synonymes. L'affreux, c'est qu'ils ne le sont pas. À la dérive, voilà où est le vrai quand il s'agit du réel. Donc, première marque de référence. Deuxième série de référence, le séminaire précédent, toujours dans le 48, la page 6, il ne va pas vous étonner, En quoi consiste ce repérage qu'est l'analyse? Est-ce que ce serait ou non s'identifier, tout en prenant ses garanties d'une espèce de distance, à son symptôme? Et il précise que cela en vient à un savoir-faire à l'être. Il ajoute, savoir-faire avec son symptôme, c'est la fin de l'analyse. Il faut reconnaître que c'est court. Comment cela se pratique? Pourquoi il nous laisse la fin de l'année 67? Il y aurait des façons de donner quelques couleurs à ce savoir-faire avec son symptôme. On pourrait dire que c'est se retrouver soi-même, comme bien nous disent quelques-uns des grands philosophes, Nietzsche, Heidegger, Foucault. Alors, parce qu'en tout cas, il faudrait bien sûr inviter, une fois déniaisé de l'idéal, pour retrouver et préciser que c'est sans illusion, mais sans renoncement. Toujours, il m'en est utile de donner quelques épaisseurs d'avancée théorique. Mais, tout ça ne m'aide pas. Ces formules imagées ne nous disent pas comment ça se passe. Comment faire le réel? Faire réel. D'accord? Faire réel, faire réel. Donc, mon septième point sera, sans vous étonner, sur équivoque. User de l'équivoque, ou passer par l'équivoque, ce qui le plus assurément permet de cerner la réalité, donc signifiant autre chose. Dans ces derniers enseignements, Kant dit que l'équivoque est notre meilleure arme contre le symptôme. Nous ne sommes jamais plus efficaces que lorsque quelque chose de l'ordre de l'équivoque se produit dans le milieu de la nature. Alors, arme contre le symptôme ou identification du symptôme? En fait, c'est que faire le réel par l'équivoque n'est pas une question de fin d'analyse, à la différence de l'identification du symptôme, mais de l'analyse tout du long. Lorsque l'accord dans RSI dit que l'équivoque est le propre du symbolique, c'est le moment où vous faites équivaloir dans ces nœuds l'inconscient avec sa vie. Il faut donc en passer par là pour atteindre un bout de réel qui, s'il se matérialise dans le symptôme, en est évidé d'une part de puissance. L'équivoque est à l'œuvre pour mettre un suspens à la jouissance des scènes, de ce qui est S-T-N-E-S, mais aussi S-A-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P-O-S-P- jouissance, avec un tiret entre jouissance, donc les scènes, et avec la narration. C'est le réel parasite de la jouissance, que dit Lacan dans le symptôme, qui est pris. Mise à plat du phallus, qui est au fond un mode de se faire avec la castration, dont on a parfois un peu vite oublié le temps nécessaire dans l'analyse, au risque de ne produire que des narcémies. Un autre axe du travail de l'épilogue s'articule au premier. Un autre axe du travail de l'épilogue s'articule au travail avec les scènes. C'est le jeu avec le parasite, non plus dans les scènes, dans le sens, mais dans ce que Lacan appelle la fonction de phonation, en mettant pH à fonction. Jeu avec les sons et les règles du langage. le plus souvent, le jeu sur le sens ne va pas sans le jeu sur les sens, comme il en est du lapsus. Mais il y a bien des jeux sur le sens qui s'en passent. Par exemple, une blague, pourquoi tu vas à l'Alberg, alors tu vas à Trois-Collines, etc. Là, on joue non sur le sens. Et cette distinction du jeu qui va sur le sens et du jeu sur le fond, qui s'articule ou pas, est le point qui distingue Nietzsche, le fait d'esprit, de la pureté du lapsus. Ma formule serait de dire que l'équivoque est le concept de la différence propre à la différence. Alors, il y a un passage du livre de Pellissonnet sur les affects que j'avais déjà souligné, j'étais allé avec quelques personnes qui étaient là lorsqu'elle a été invitée à l'espace analytique pour parler de son travail, qui m'a, moi, beaucoup intéressé, beaucoup travaillé. C'est à toute fin de son livre sur les affects dans sa conclusion, à la page 168. Je lis le passage. Elle dit, et signer le poème, ou le poème que l'on met, ou s'identifier aux symptômes, ce sont deux expressions équivalentes qui disent la position d'un sujet qui en est venu à se reconnaître. C'est-à-dire à s'identifier dans sa configuration de jouissance au pas. Mais tout aussi important également dans sa part d'ignorance irréductible, dans son je ne sais pas de savoir où. En ce sens, on peut dire athéisme du sujet, pour autant qu'il signe le poème qu'il est et qu'il ne sait pas tout. Il y a donc du côté de l'analysant cette position, quant à ce savoir. Alors, la question, me semble-t-il, y a-t-il du côté de l'analyste une position ou une déposition qui répond à ce savoir pas tout? L'athéisme de l'analysant, dont parle le solaire, libère l'analyste du savoir supposé. C'est la mise hors course du savoir absolu et à partir de là de toute téléologie. C'est au fond une autre conception d'histoire que de fait nous pratiquons. Par notre façon de prendre de biais, de prendre de cours, les formations de la conscience, le travail de l'esprit, nous déjouons la nécessité. Pour nous, la nécessité, c'est ce qui ne cesse pas de s'écrire. Des formations de l'inconscient organique. Nous y faisons coutume. Nous rompons aux surprises du réel. Déjouer la nécessité en la subordonnant au fond à la contingence de ces surprises du réel qui surgissent dans l'équivoque, et me semble-t-il, une façon de faire, de pratiquer une certaine conception d'histoire. Peut-être au fond, c'est une façon de déjouer la nécessité et de porter une sorte de climat à la contingence, quant à l'histoire en général, serait une façon, disons, plutôt réaliste de considérer l'histoire. La grande histoire, quitte à retrouver, avec ce type d'approche, le pessimisme du constat creux de la génocide, une surgissant contingence marquant l'histoire, et peut-être pas seulement cette position pessimiste.
Merci. Thank you. soi. Vous m'entendez bien ?
D'accord. Le titre du séminaire, cours définitif comme trajet d'une analyse. Si tant est que le parcours puisse être saisi comme temps 1, l'analyse raconte jusqu'à ce soir, pour savoir que se raconter l'historique en vie, et cette historisation, le nom est passé, l'écrit de son histoire se ramène à l'être en fait. Pour autant, comment vivre sans l'inconnu devant soi du verre du char, ouverture à l'inconnu que la début, ici ou là, ici et maintenant, signera. Inconnu sans précédent et inertant, non reconnu à la fin.
Bon, alors, sans ce micro.
Sans l'argument donc, que j'avais obligé pour ce séminaire, j'avais pour besoin de lire le livre d'Olivier Raconté de l'histoire, l'équivalent de parcours du monde. J'ai pris une option d'écrit qui m'a conduit à modifier l'ordre de présentation du livre et de commencer par raconter l'histoirisation, puis d'en venir à l'historisation. Raconter renvoie directement à la façon dont se déroule la vie du nom d'entraînement et le temps durant lequel l'analysant est comprise avec son histoire et ses chapitres censurés, et durant lequel il s'efforce de rétablir une sorte de continuité en levant les points d'interrogation et les énigmes auxquelles il est contraint de faire face. Durant lequel il tente de faire rentrer ses rêves et un film de l'histoire, une histoire dans le film de ses rêves. C'est le temps de la quête du sens. Je vous explique ce que Lacan a appelé les rectifications subjectives, qui indiquent par la continuation ce qui lui est arrivé et ce qui lui est arrivé. La construction du mandat est de la mise à jour des coordonnées signifiantes. Relève de ce temps. Je résume en disant un analysant à un aperçu sur ce qu'il cherche et la mise conférentielle contribue avec quelques-unes des interrogations. Que pensait Lacan de cette histoire ? Il l'a dit en ménagement dans une intervention au congrès de Strasbourg. Pour ça, dans une lettre de l'école de Paris, numéro 19. Où il oppose la réalité qui est ponctuelle de l'ordre du temps à l'histoire. Donc ça a été déjà quelque chose dans la tête. La réalité du fait de ce livre, elle est ponctuelle par rapport à ce que j'appellerais l'histoire avec un grand H. On prend l'histoire. Il n'y a que des historiens. Bien alors, au second temps, l'historique. Je commence par ce que Lacan a apporté sur ce point, qui fait passer une histoirisation à l'historisation. Entrer dans l'analyse des repérages de l'identification, on lui dit le sans doute en place. C'est dans la préface, en édition anglaise, comment on fait une semaine, pour en fait, qu'il écrit. D'où ma proposition que l'analyse ne s'historise que de lui-même. Pour qu'on entende bien de quelle proposition il parle, un peu plus loin dans le texte, où j'ai dessiné de la page cette mise à l'épreuve de l'historisation de l'analyse. En me gardant cette page de la coléatrice, parce qu'il n'y a pas de question de la part de la page. En surplomb, si je puis dire, cette autre formule, l'analyse qui ne s'autorise que lui-même, qui complétera par deux quelques. Ou bien utilisée pour prendre la mesure d'une épreuve que les passeurs en origine. Donc, épreuve et non preuve. C'est une indication que je partage. Que cette épreuve peut surgir du neuf dans le savoir établi par les communes de la campagne de Corrèze, traversée du fantasme, l'anticipation de symptômes, ou encore l'extraction des alertes de jouissance, ou encore le poète. C'est certainement la raison pour laquelle la campagne de monter un effort de doctrine de sa forme. Il faut se demander que comporte cette histoire. On trouve la justification à la fin de l'enseignement de la campagne dans cette leçon de la société du 14 décembre. Disons d'abord l'historisation et la généalogie, qui se lit à la fois mystérie, histoire et le sommet. Dans cette leçon, Lacan explicite par trois retournements successifs du tort, on peut revenir sur ça, la structure de la maison. L'avantage de la démonstration. Dès lors qu'il met à jour la structure,
Toujours est-il que Lacan a posé la question de celui
la maille à partir avec le symptôme, la jouissance qui y est couronnée. J'en viens au troisième terme, écrire. J'ai parlé de l'être, signe d'écriture, mais je crois qu'on peut dire que Lacan implique l'écriture dans le procès analytique dès le début de son enseignement. L'écriture est au cœur de l'enseignement dès le départ. J'en veux pour preuve la barre infranchissable entre S et tout S. Cette barre à laquelle il fera le sort que l'on connaît dans littérature autour de l'écriture du chinois et plus particulièrement de la calligraphie. De la barre, on passe au graphe, puis au trait unaire. Du trait unaire à la barre structurée et sur l'autre, à barrer. On peut d'ailleurs noter que les schémas du séminaire 11, les cercles de l'air qui écrivent le rapport du sujet à l'autre, sont une écriture.
On a donc trois temps, trois occurrences.
l'histoirisation, l'historisation, le temps 3, celui de la fin, je propose de l'appeler l'histourisation. Ça, on revient des façons. Puisqu'avec les deux, Lacan va essentiellement aborder la logique des trous, faux et vrai. On peut ajouter que si le premier temps est de lecture, le temps 2, celui de la structure, et donc du manque, le temps 3 est celui de l'écriture. Écriture, dit nouveau 2. C'est d'ailleurs tellement le temps d'écriture que Lacan, toujours dans la préface, va amener ce développement crucial sur le poème qui s'écrit malgré qu'il ait l'air d'être sujet. Je vous risquerai à ajouter à ces trois temps de lecture, structure, écriture, ce qui les noue ensemble, c'est-à-dire le terminer l'analyse, la dimension du dire est requise à partir de la question qu'introduit le réel au temps d'historisation. Comment rendre opératoire la marque de la répétition qui ne saurait être effacée? Réponse, par le dire qui nous. Avec un E. C'est ce dire. C'est ce dire qui pourra nous ensemble, les dits, l'ouïe et le jouit. C'est en relation à cette introduction du réel que j'ai été amené à relire la réponse que Lacan a faite à la suite d'une question de Marcel Ritter. Vous trouvez ça dans les lettres de l'école freudienne de Paris, numéro 18. Je suis venu à la lecture de cette réponse de Lacan m'a paru essentiel par rapport au titre du séminaire, notamment à l'écriture, et donc je voudrais là l'évoquer. Nombre d'entre vous, je suppose, connaissent cette intervention, dont je vais quand même rappeler quelques idées. Ritter pose la question de savoir si l'onerkan, le nom reconnu, ne serait pas un réel. Mais alors quel réel? Et il se risque à dire, ne serait-ce pas le réel du pulsionnaire? Le réel pulsionnaire. Lacan répond longuement, affirmant que s'il y a un réel pulsionnaire, il commence par dire non, et ensuite il dit s'il y a un réel pulsionnaire, c'est ce que dans la pulsion, je réduis à la fonction du tout. Il faut distinguer ce qui se passe au niveau de l'orifice et ce qui fonctionne dans la corde. Et il choisit un truc bien particulier, l'ombilie. À partir de l'ombilie du rêve, revient. Faisant l'analogie entre Unerkan, le nom reconnu, et Unerkan, le reculé du nom. L'ombilie du rêve, à l'autre le nombril, marquant que le cordon est blanc. Il introduit là le terme de paraître en insistant beaucoup sur le fait que l'enfant est né de ce ventre et pas d'un autre. C'est un nœud entre la parole et le corps. À partir du paraître, il avance la dimension d'impossible que comporte le nerf. Impossible à reconnaître. Mais, c'est à mon avis le point, à côté de l'impossible à reconnaître, il avance un autre impossible. Je dois vous dire que vous avez justement cette réponse, vous n'avez jamais vu ce que vous avez. Cet autre impossible, c'est Unmöglich, c'est pas la même chose qu'on n'est pas. Unmöglich et Unerkan sont deux formes de l'impossible. Mais Unmöglich, la forme précise, ne peut ni se dire, ni s'écrire. Il ne cesse pas de ne pas faire. Il me semble que cet Unmöglich lâche la forme
plus loin que vous n'êtes pas, qui comporte le kénon, connaître, savoir. Ou ne vis-je, c'est impossible en principe. Sarrasine et Beugel, ou ne vis-je, un beau ou un homme, si je l'ai connu. Beugel,
j'ajouterai que le par-lettre n'a pas le choix.
si le réel est voué à l'existence. La condition de par l'être repousse, c'est là que la pulsion, le sujet du côté de l'autre que le réel. J'ai mis longtemps à entendre cette formule de la forme, l'autre que le réel. Du coup, on voit là ce qui se passe, c'est-à-dire qu'arriver à ce point d'opacité radicale, au fond, le sujet, il n'a pas tellement le choix. Il ne peut que retourner vers l'autre que le réel. D'accord ? Et toute la question porte alors sur ce qu'il pourra dire, ce sujet, et vivre de ce dialogue, de cet entre-près, pour prendre le terme de Lacan, avec cet inconscient insaisissable. L'inconscient réel qui se signale par ses bévues. D'où la question que je pose dans mon titre. Comment vivre sans la bévue en soi ? Je rapproche donc cette question de la phrase de René Char qui me semble aller dans le même sens. La phrase de Char, c'est « Comment vivre sans l'inconnu de mon soi ?» qui figure dans le volume « Fureur et mystère », le poème pulvérisé. Phrase qui m'est apparue comme une sorte de réponse à notre titre. En effet, où nous mène ce triptyque raconté, historisé, le commentaire de Lacan sur la bévue se situe au cœur d'un débat entre la psychologie des profondeurs et la psychanalyse. Et par la topologie, Lacan examine les rapports entre dedans et dehors, endroit et envers, pour faire valoir au fond la continuité du dedans et du dehors et finir par dire qu'il n'y a aucune coupure pour lui entre son conscient et son inconscient. Critique Lundbevus de Freud de cette manière, il ne loge pas l'inconscient Lacan dans les profondeurs et il introduit la bévue. Elle est très éloignée de la profondeur d'une part et d'autre part, elle situe le point extrême qu'il déduit de son étude de la langue et du langage pour donner une autre définition de l'inconscient, plus exactement pour situer ce qu'est le projet affiché au début de l'insuccès, du séminaire d'insuccès, de Lundbevue. Cette année, disons qu'avec cet insuccès de Lundbevue, j'essaie d'introduire quelque chose qui va plus loin que l'inconscient. Et il enchaîne en posant la question du rapport qu'il y a entre l'intérieur et l'identification. Après quoi il rappelle les trois identifications freudiennes pour y ajouter la sienne, si je puis dire, cette identification quatrième, identification au symptôme. Une bévue, c'est quoi ? Une bévue, c'est un achoppement, c'est un glissement, c'est un trébuchement. Autant de termes qu'on trouve déjà dans la définition de l'inconscient qu'il déploie dans le séminaire 11. C'est en tout cas, cette nouvelle définition, ça donne une toute autre idée de l'inconscient. Et ça donne à l'équivoque, comme M. Tobou l'a souligné, toute sa portée. Aller vers l'inconnu. Unbekannt. Sur la base de cette Unerkannt, ce nom reconnu, dont j'ai indiqué la sortie proposée par Lacan, le pas de côté proposé par Lacan, avec Unmöglich, l'impossible qui rencontre le mot faire d'un goût, aller vers l'inconnu, contrairement à ce que Charles suppose, n'implique aucun futur, aucun lendemain qui chante. Ce serait plutôt malvenu d'y croire par les temps qui courent, d'accord avec moi j'espère. Mais au contraire, ça convoque la disponibilité à la rencontre, mais à la rencontre de quoi ? La rencontre d'un savoir qu'on ne sait pas qu'on sait. Un savoir sans sujet. Autrement dit, cet inconscient insaisissable. Aller vers l'inconnu. Comment ne pas évoquer ici le dynamisme mécanisme du vide médian que Lacan et Cheng ont ensemble étudié. Cheng disait « renommer les choses comme au matin du monde ». Il y a de cela dans la nature. Les mots sont les mêmes. Et pourtant, ils peuvent être entendus autrement. Ils peuvent prendre un sens, un poids, que l'analysant ne leur connaissait pas. Je dis les mots, mais ça peut être aussi bien un phonème, une modulation autre, une tonalité, une articulation autre. Que l'analyste soit concerné est une évidence. Les deux, l'analysant et l'analyste, le sont. Il s'agit d'ouïr plutôt que de jouir, et dire sans doute, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon d'écrire que de dire. Risquer ce savoir sans sujet que Lacan a promu au cœur de l'expérience. Le poème monte de ce qui est au cœur d'une, la cause du désir. Toute la question alors porte sur ce que l'analyste en fera. Et c'est, si je puis dire, une autre histoire. En sera-t-il inhibé ou supportera-t-il son acte? Pour répondre à cette question, on peut prendre rendez-vous par exemple aux journées de novembre de l'école. Au terme de ce parcours, je propose donc de modifier le titre que j'avais donné, Comment vivre sans l'une bévue devant soi, de la façon suivante, Comment vivre sans l'une bévue en soi.